et on est en compagnie de notre invité, donc en ce mercredi 20 mars dans les promesses de l'aube. J'ai le grand plaisir d'accueillir Djemima Kulumba. Bienvenue Djemima, merci d'avoir monté, comme je le dis, les 100 marches qui mènent au studio de Radio Panique.
Merci, c'est gentil.
Et donc, si je vous ai invité, c'est en tant que directrice et cofondatrice de Women in Art pour parler de cette biennale édition zéro sur Women in Art et l'intitulé de cette édition zéro, c'est A Show of Resistance. Et donc, durant 15 jours, cette biennale propose une exposition qui regroupe 25 artistes femmes ainsi qu'une série de rencontres. Mais avant de détailler un peu le programme qui a déjà commencé avant-hier, si je ne me trompe, le 18, racontez-nous un peu comment est née cette idée et ce besoin, cette urgence aussi en 2024 de faire une biennale Women in Art.
On a fait un gros travail de recherche avec le comité de direction de la Biennale of Women in Art, c'est-à-dire avec Christophe Gouache, Giovanna Massoni, Ariel Dotterive, qui est la toute première galeriste belge à avoir créé une galerie 100% artiste femme et qui perdure d'ailleurs dans le temps, entre autres, Ilse Geeker et Sierra de Vogel, qui est artiste. Et on s'est re-questionné, puisque je suis arrivée avec cette idée complètement folle, c'est un fait, de vouloir faire une biennale d'artistes femmes, puisqu'on s'est rendu compte des problématiques systémiques dans l'histoire de l'art. Ces problématiques, au niveau historique, sont, elles se recensaient depuis l'époque du Moyen-Âge, et en fait, elles continuent de perdurer encore aujourd'hui. Et l'idée, c'était de pouvoir pallier à cette problématique à travers un événement qui allait revenir de façon systémique également. Donc une biennale revient tous les 2 ans et donc permet potentiellement de tous les 2 ans se re-questionner sur la place des femmes dans l'histoire de l'art et dans l'art contemporain.
Et du coup, vous, à l'origine de ça, vous êtes un collectif, une ASBL qui s'est créée
Oui. Tout à fait. En fait, on est une association. C'est beaucoup d'experts, en fait, hein, finalement, derrière cette association. Mais on n'est pas de temps plein sur ce projet. C'est très important de le mentionner ici, puisqu'il n'y a pas encore assez de budget pour qu'on soit temps plein, tout simplement. Maintenant, la réalité du terrain fait qu'on est tous et tous, parce qu'il y a aussi des hommes, on a tous envie de faire un changement, ou de moins d'initier un changement sur cette problématique et peut-être de sensibiliser à travers la médiation culturelle, le public, les artistes, mais aussi les professionnels du secteur. Et donc voilà, je pense que c'est très ambitieux, mais on sait qu'on le fait pour les artistes et aussi pour les professionnels du secteur, puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est que il y a des problématiques systémiques et l'un de ces problèmes est également le fait que, par exemple, les experts qui travaillent sur les thématiques des artistes femmes en Flandre ne communiquent pas avec les experts qui travaillent sur les artistes femmes du côté francophone ou du côté wallon, ce qui est complètement fou. Or, en fait, il faut pouvoir créer un pont, puisque c'est ce qui fera que potentiellement on arrive à changer les choses.
Et ici, donc, la biennale, ce sont des artistes belges, donc, ou résidents en Belgique. C'est pas une biennale internationale avec. Et comment ça s'est fait? Parce que moi ici dans l'émission, j'ai l'habitude de parler du festival El Tourne et donc de ces problématiques qui sont récurrentes aussi. Et vous dites c'est systémique et effectivement dans les arts, que ce soit les arts plastiques ou l'art contemporain, que ce soit le cinéma, que ce soit la musique, on voit encore en 2024 une invisibilisation des femmes. Mais au-delà de cette question de visibilité, est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui seraient moins visibles, justement?
Alors effectivement, c'est des artistes résidentes en Belgique principalement. C'est un choix financier, mais aussi parce que l'idée, c'est de sensibiliser la Belgique d'abord. C'est de pouvoir dire qu'on va essayer de faire un, en fait, finalement. On va essayer de réunir à peu près toute la Belgique. Et c'est génial, ça fonctionne. Je peux déjà un peu m'avancer là-dessus, puisque hier, on a eu des gens du casque, de l'école de casque à gants, qui sont venus dans le lieu visité. Et donc, on se rend compte que, évidemment, on arrive à ramener un petit peu de tout ce public belge. Concernant les artistes, des problématiques justement systémiques parce qu'en fait c'est pas que dans les arts plastiques comme tu l'as mentionné, c'est vraiment dans plein de secteurs différents, sauf que dans les arts plastiques et c'est peut-être parce que c'est là mon combat, je sais pas, mais j'y suis plus sensible puisque aujourd'hui en fait on est quand même à 2% sur le marché du vin d'enchères international, ce que je trouve complètement fou. On est à 64% dans les écoles d'art en Belgique. Et les chiffres de 2019 démontraient que c'était 10% sur le marché. C'est 60 contre 10% sur le marché de l'art. Et on se demande où sont partis 50% de nos artistes, en fait. Comment elles ne perdurent plus. Alors, je pense concrètement qu'on n'apporte pas toutes les solutions. En tout cas, on a tendance à essayer d'apporter les solutions durables. L'une des problématiques mentionnées juste avant, c'était vraiment cette problématique de co-création et d'échange d'expertise, par exemple. Alors, quand des experts travaillent, je parle ici particulièrement de doctorantes, par exemple, qui travaillent sur les thématiques d'artistes femmes, artistes sous-représentées, elles vont créer des thèses et elles vont les présenter et ensuite peut-être qu'elles vont sortir un bouquin ou peut-être faire une exposition ou des fois aller tout simplement s'arrêter à la thèse. Et malheureusement, s'il n'y a pas de pont, s'il n'y a pas d'endroit où relayer cette information, puisqu'on n'a pas de centre d'archivage en fait en Belgique concernant les artistes sous-représentés, les artistes femmes, comme si elles n'avaient pas existé, eh bien en fait, ce travail se perd littéralement. Je pense qu'aujourd'hui, ce que j'aimerais bien un jour, parce que j'ai pas la prétention de pouvoir le faire demain, ce serait de pouvoir créer un centre d'archivage pour les artistes sous-représentés, les artistes femmes. Puisque au-delà des artistes femmes, il y a aussi les artistes cuir et les artistes de toute fluidité de genre en réalité, qui ont réellement une invisibilisation très concrète sur le marché de l'art et sur le marché artistique. Et qu'aujourd'hui surtout, malgré ça, ces artistes résistent. C'est pour ça que ce thème Show of Resistance est très pertinent pour nous, puisque ces artistes résistent malgré les tendances, malgré les problématiques sociétales et les époques patriarcales par lesquelles tous ces artistes sont passés. Eh bien, en vrai, aujourd'hui, elles et ils sont toujours là. En réalité, elles sont toujours là. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que même s'ils doivent faire 10 jobs en même temps, ces artistes sont tout le temps sur le marché et essayent tout le temps. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait les célébrer, tout simplement.
Et justement, cette question des archives que vous soulevez, elle est importante parce que c'est via les archives qu'on transmet l'histoire aussi, et qu'on peut transmettre une filiation, enfin, et un maternage, enfin, ouais. Un matrimoine aussi en termes d'art. Et donc, c'est un enjeu important de pouvoir rassembler effectivement ce qui se fait. Et quel a été, vous évoquiez aussi le fait qu'entre la partie francophone et la partie néerlandophone du pays, la communication n'était pas toujours au top, on va dire. Oui. Ça se voit à d'autres niveaux aussi, je pense. Mais est-ce qu'il y a des différences de mentalité? Est-ce que c'est plus facile d'être une artiste femme ou queer en Flandre qu'en Wallonie, ou inversement?
Je pense pas que ce soit plus facile. De ce que j'entends des artistes avec lesquels on travaille qui sont néerlandophones, d'ailleurs que je vous invite à découvrir la Biennale, c'est pas plus facile pour autant. Je pense juste que au niveau de la Flandre, ils sont beaucoup plus en avance sur ces questions-là. L'année passée, j'étais à un colloque concernant les artistes femmes, invitée en tant qu'experte sur ce colloque à Bruxelles, et on avait 7 personnes dans le public de notre salle pour le colloque, ce qui m'a un peu fait un électrochoc. Je me suis dit, waouh, il y a personne qui est sensible à cette question, c'est fou, je comprends pas pourquoi, puisque ça fait des années que les gens essayent de sensibiliser un maximum de monde, je trouve. Et, Et en fait, en Flandre, par ailleurs, ils ont créé une journée d'études spécifiquement dédiée qu'aux artistes femmes. Et il y avait plus de 500 personnes. Et donc, je pense que là, on se rend bien compte qu'il y a une... il y a une question que pour moi les Flamands ont déjà, ils sont déjà en avance là-dessus puisqu'ils ont déjà sensibilisé, je pense, une grande partie au moins de leurs experts sur ces problématiques, ou alors ils ont déjà essayé de commencer à faire une sorte de recenser en fait ce travail-là, ou d'essayer de pallier à ces problématiques. Or ici, je pense que on rame un petit peu, bien que je salue les initiatives qui existent déjà. Évidemment, Valérie Piette avait fait un travail extraordinaire, que ce soit au niveau de l'ULB, avec les études de genre, etc., et qui, dans ses études, parle d'ailleurs, entre autres, des artistes femmes. Je pense qu'il y a beaucoup de travaux et d'experts ici et là, en Belgique, qui essayent de mener à bien. Et alors, vraiment, cette scission existe, évidemment, à plein de niveaux, hein, entre la Flandre entre le côté flamand et le côté francophone. Je pense qu'aujourd'hui, l'art, et ça, c'est la force de cette nouvelle génération pour moi, l'art n'a plus de frontières. Et que, tout simplement, aujourd'hui, on est prêt à faire fi du passé et des problématiques politiques autour pour pouvoir devenir un seul et même corps et avancer de façon durable pour pouvoir éventuellement prétendre à changer les choses, du moins en Belgique, puisque concrètement la Biennale Feminine Art, c'est quand même la toute première biennale gratuite au monde, c'est quand même aussi la toute première biennale d'artistes femmes qui fait de la médiation culturelle à travers un schéma très innovant d'inclure des citoyens à tout niveau de pouvoir et d'instance de direction. Et donc je pense que cette sensibilisation du public et peut-être même aussi des artistes, parce qu'on a eu plus de 200 candidatures, c'est vraiment parce qu'on est dans une période là où les gens ont soif de justice sociale, j'espère, en tout cas tout comme moi.
Et justement, vous évoquez le rôle des experts aussi, et des personnes qui font des recherches dans le milieu académique ou des choses comme ça. Et là, vous évoquez l'importance aussi d'inclure les citoyens, citoyennes, dans cette réflexion. Quel est le travail justement de sensibilisation pour transformer le regard aussi que peuvent avoir les amateurs, les amatrices, les personnes qui vont voir, qui s'intéressent à l'art et qui, elles, ne sont pas non plus formées, n'ont pas cette habitude de voir des femmes qui ont été invisibilisées. Et donc, au sein de la Biennale, est-ce qu'il y a des moments, justement, je le sais, vous avez mis en place tout un programme, justement, de rencontres, tout de débats, de...
Eh bien, par exemple, aujourd'hui, on a Christophe Gouache, qui est co-directeur de la Biennale Feminine Art, qui a ramené, justement, tout cet aspect innovateur. Enfin, pour moi, c'est une des grosses particularités de cette biennale, quand même. On n'a jamais vu ça dans le monde. Une biennale qui inclut les citoyens à tout niveau de pouvoir, c'est très nouveau. Du coup, on a vraiment testé un système très très ambitieux, finalement, puisque c'est quand même réunir des experts de l'art autour d'une même table, avec réunir des citoyens qu'on a sélectionnés en faisant un open call comme pour les artistes. Et ces citoyens ont travaillé de concert avec les experts, et c'est là où on avait un petit peu des réticences au début. On se disait, bon, est-ce que ça va vraiment fonctionner, puisque c'est quand même une expertise d'usagers, une expertise très académique, donc très et très art contemporain, pour le dire ainsi. Et on s'est dit, est-ce que il va y avoir peut-être des clashs de pensées ou autre. Et en fait, au contraire, c'est passé extrêmement fluidement. C'est ça qui était extrêmement surprenant, et en soi, enfin, pour cette partie-là, c'est une grande réussite pour moi, puisque cette notion de participation citoyenne est très importante pour pouvoir imaginer qu'un citoyen lambda, pour le dire ainsi, un usager qui n'est pas habitué à l'art contemporain, qui a peut-être même pas les moyens aussi des fois d'aller dans des expos d'art, même si on pense que 5 € c'est accessible pour tout le monde, ça ne l'est pas. Et en réalité, ces citoyens-là ne vont pas payer 5 € pour rentrer dans une expo. Ces citoyens-là vont aussi ne pas se sentir concernés, puisque ça ne les intéresse peut-être même pas pas l'art. Eh bien, pour ça, il faut faire un événement. Cette gratuité est importante, du coup, dans ce cadre-là, pour pouvoir, en fait, même si ça ne vous intéresse pas, vous avez la possibilité de découvrir. Et donc, à propos de ces découvertes, comme aujourd'hui, on a Christophe Gouache, donc co-directeur, qui a permis de créer cette notion de participation citoyenne, puisque c'est un expert d'innovation publique et entre autres de participation citoyenne. Et elle va créer aujourd'hui sa première conférence au sein de la Biennale concernant les artistes femmes de l'époque de la Renaissance. Et bien, l'idée, c'est de venir faire découvrir au public justement toutes ces thématiques à travers une expertise. Alors des fois, enfin pour l'ouverture, par exemple, on a eu Lise Van Kappenhout qui est venue avec un programme bien plus de présenter sa thèse justement académique, et Christophe Gouache va faire une présentation plus générale, mais qui permet aussi de découvrir à travers l'histoire de l'art comment se sont construits ces biais inconscients qui nous amènent aujourd'hui à devoir revendiquer une voix, une place pour les artistes sous-représentés.
Et justement, chaque journée de la Biennale, donc qui dure une grosse dizaine de jours, vous avez choisi de mettre le focus sur une thématique, sur un des enjeux que vous vouliez traiter.
Tout à fait, c'était primordial. C'était une grosse réflexion avec. Avec Carole Laurent, historienne de l'art, et Marie Maron-Kschecht, et tout notre comité de direction évidemment autour, dont j'ai déjà cité les noms tout à l'heure. Et puis en fait, on s'est reposé autour de la table et on s'est dit, bon ben voilà, la Biennale arrive, je pense que c'était il y a un an, et on se dit, bon ben qu'est-ce qu'on fait? Ce serait bien que par jour on ait des thématiques, des focus points sur ces sujets, ces problématiques qui nous tiennent à cœur en fait. Et donc un peu, l'idée c'était que tout le monde a écrit un petit peu, a fait son petit Excel avec toutes les thématiques potentielles qu'on avait envie d'aborder. Et on a mis après, on s'est présenté les uns les autres un peu ces thématiques. Et on a eu plein de thématiques en fait qui sont ressorties. Ce sont les mêmes. Et on avait les mêmes points presque, les mêmes revendications, les mêmes besoins. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, bah en fait, voilà, on a nos thèmes. On a nos thèmes par jour. Et l'idée, c'était d'inviter un expert par jour qui vient parler de ces thématiques. Alors, très concrètement, c'est pas ce qui est arrivé sur le terrain. Parce que concrètement, ça génère des sous de pouvoir payer des experts pour venir à chaque fois, etc. Puisque tout travail mérite salaire, évidemment. C'est très important. Puisque, comme on dit souvent, la visibilité n'est pas un salaire pour les artistes, et donc on les paye, et donc on paye aussi, on essaye en tout cas de payer le maximum d'interventions, à part les institutions, enfin les associations du territoire qui vont venir se greffer au programme. Donc c'est un petit peu l'idée, c'est de dire qu'on va mettre et donner la voix à toutes ces associations en Belgique qui travaillent d'une façon ou d'une autre à la représentation et à l'inclusivité d'artistes femmes ou d'artistes représentés. On a des volumineuses, on a non pas elles tournent, mais bien qu'on les adore. on va travailler avec elles d'ailleurs en novembre. On a les sous-entendus qui viennent. On a plusieurs, en réalité je me rappelle vraiment plus de tout le programme de mémoire, mais on a plusieurs associations qui viennent se greffer vraiment au programme de la Biennale, et ces associations viennent présenter ce qu'elles font concernant cette thématique, ou ce qu'elles font qui en tout cas pourrait faire écho et pourrait aider. On a par exemple pas uniquement des associations, on a aussi des entreprises, puisqu'en Belgique on a des entreprises extraordinaires qui ont essayer d'aider et qui essayent encore d'aider les artistes femmes et les artistes représentés, mais qui sont pas forcément connus du grand public ni même des artistes. Donc c'est un peu ça l'idée. C'est, on a Ace Good qui va prévenir, qui va venir, je pense, vers la fin du mois, je pense vers le 29, 30 ou 31. Désolé, je sais que ça fait trois dates potentielles, mais voilà, je me rappelle plus trop exactement. Et Grégory Montfort va venir présenter par exemple un outil digital qu'il a créé pour pouvoir générer des sous. Puisqu'on sait que c'est très difficile en tant qu'artiste sous-représenté de pouvoir avoir d'argent. Et puis il a créé un outil qui permet aux artistes de pouvoir créer digitalement des œuvres d'art et générer de l'argent concrètement pour pouvoir continuer de vivre de son art. Et je pense que toutes ces initiatives méritent un focus. Puisque en fait les artistes en ont besoin, tout simplement, ils ont besoin de savoir ce qui existe déjà, là où ils peuvent aller, là où ils peuvent rencontrer les personnes qui peuvent les aider, puisque ces personnes sont là pour ça aussi dans ce lieu.
Et donc c'est aussi un moment de rencontre entre les artistes. Et donc on disait que ça avait déjà commencé, l'ouverture, l'inauguration a eu lieu lundi soir avec toute une série de d'activités, enfin de rencontres, d'interventions. Et le focus, c'était justement la place des femmes et des artistes non binaires. Et hier aussi, c'était plus aussi re-questionner la place dans laquelle les femmes ont pu être cantonnées dans l'art en tant que muses, en tant que...
Tout à fait.
Et comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu... qui était là? Quel était le public? Quelle a été la réception aussi? C'est intéressant de vous avoir alors que ça a déjà commencé, donc vous avez déjà un petit peu un aperçu.
Alors, on a eu hier Art et Public, l'association Art et Public, qui est dirigée par Jacques Remacle. On a eu Marine qui est venue dans le lieu, donc l'espace Vandenborg à Mille-Bruxelles, et qui a venu présenter justement un jeu vidéo, ce qui est génial. Alors, j'aurais dit, mais attendez, il faut qu'on aille plus loin ensemble avec ce jeu, c'est extraordinaire. Ils ont créé un jeu vidéo en fait concernant la place des artistes femmes muses dans l'histoire de l'art. Ils ont créé donc leur artiste femme muse, donc un espèce de cliché qu'on va retrouver dans par les grands maîtres finalement dans l'histoire de l'art. Et ils ont créé cet artiste muse, et ils ont créé un jeu vidéo qui va se battre justement pour acquérir et gagner du terrain dans sa carrière à travers ce jeu vidéo, et qui à la fin de ce jeu vidéo va se confronter à cet artiste masculin qui va se battre contre elle, voilà, tout simplement pour essayer de garder son terrain, si on peut le dire ainsi. Alors c'est très cliché certes, mais c'est un peu une façon ludique pour moi de dire effectivement dans l'histoire de l'art on a des très grands maîtres qui ont justement, et particulièrement dans l'époque du Moyen-Âge, je sais pas pourquoi je pense au Moyen-Âge maintenant, on a des grands maîtres qui ont vraiment des enlumineuses qui travaillaient énormément dans les monastères, etc., et qui ramenaient, qui étaient vraiment présentes, qui ramenaient justement ce plus pour moi, vraiment, en termes de pratique artistique. Et en fait... on les a complètement invisibilisées, elles n'avaient pas le droit de crier, donc elles étaient obligées de se cantonner à un monastère pour pouvoir être en lumineuse et pouvoir prétendre à la création, ou alors se cantonner à leur mari, leur conjoint, pour pouvoir exister, et qui malheureusement, en plus à l'époque du Moyen-Âge, une époque, je pense que j'ai pas besoin de le dire, assez patriarcale, eh bien on a vraiment eu ce rapport là où ces artistes-là avaient besoin d'exister à travers leur mari, et donc elles ne pouvaient pas présenter leur travail, c'était interdit. Et donc je pense que c'est là l'importance de dire qu'en fait c'est cette notion d'artiste muse est ancrée en fait dans les mœurs. Or là c'était vraiment se cantonner derrière, se cacher presque pour crier. Et puis après, l'histoire de l'art nous a démontré par plusieurs artistes, de grands artistes, vraiment, pour ne pas en citer, puisque je pense que c'est assez cliché de revenir là-dessus, puisque heureusement aujourd'hui on en parle beaucoup. Eh bien, en fait, que toutes les artistes femmes ont souvent été reprises comme objets, de sensibilisation, objet de création, et elles étaient plus perçues comme artistes quand elles créaient de l'art, les artistes femmes, comme des artistes et peintresses vouées à faire des natures mortes. Or, en fait, non, pas du tout. Et c'est là où, pour moi, la période, une des périodes les plus intéressantes, mais c'est très personnel, hein, la période de la Renaissance, puisqu'on a eu Artemisia Gentileschi, par exemple, parce que c'est celle qui est la plus connue en ce moment, puisqu'il y a eu une grosse expo il y a quelques années, née à Londres, qui, justement, à casser tous ces codes à l'époque de la Renaissance. Et ce n'était pas la seule, d'ailleurs. C'est ça qui est extraordinaire à l'époque de la Renaissance. Elles étaient plusieurs et à cartonner. Elles ont cartonné à l'époque de la Renaissance. Je ne comprends pas qu'aucun livre d'histoire n'en parle. Et justement, elle a fait cette œuvre qui parlait de Judith qui décapite Lefebvre, qui est très fort artistiquement parlant. C'est quand même une œuvre extrêmement forte, extrêmement revendicatrice justement de sa place, de la place des femmes dans cette société. Et donc, je pense vraiment que c'était hyper avant-gardiste pour l'époque. Et je trouve ça toujours avant-gardiste aujourd'hui pour moi, pour ma part. Et je pense que toutes ces réalités-là ramènent une notion de des artistes femmes qu'on est presque trop habitué à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand on va aller dans des musées, et merci, aujourd'hui, la plupart des musées essayent de faire un travail quand même là-dessus, on va s'apercevoir que même le peu d'œuvres qui sont dans leur collection permanente, ils vont avoir beaucoup de peintres hommes qui ont peut-être dessiné ces artistes femmes, ces muses, et ce qui est triste finalement, puisqu'en fait certaines de ces muses étaient elles-mêmes artistes en fait. Donc c'est complètement fou de mettre toute cette partie de l'histoire autour et de rester cantonné à cette histoire qui est très gardée finalement et je sais que je reviens beaucoup avec ce terme, mais patriarcale.
Justement, enfin, ce que vous dites, on revient à cette transmission. Au fait aussi que les professeurs hommes, favorisent peut-être leurs étudiants aussi, enfin, des hommes, visibilisent aussi des hommes. Et donc, c'est important pour les femmes de pouvoir se renforcer et avoir aussi un lieu où parler ensemble, où Virginia Woolf parlait d'une chambre à soi, mais c'est une chambre génial. Collective aussi qu'il faudrait pour pouvoir se renforcer et s'entraider.
Je trouve ça fou que tu me parles de ça. Et c'est pour ça que j'avais envie de rebondir directement, parce que je trouve ça très fou, parce que en fait on s'est inspiré de Virginia Woolf et d'une chambre à soi, entre autres, dans la Biennale. Du coup, ça me touche particulièrement, évidemment. Alors oui, effectivement, je pense qu'on a besoin de se réapproprier l'espace. C'est pour ça que c'est le show of resistance parle. Alors oui, de cette réappropriation de l'espace, du temps et de sa propre voix en tant qu'artiste sous-représenté, qu'artiste sous-représenté et artiste femme. Ce qui est important, c'est de pouvoir se réapproprier les espaces également et en soi. On a essayé de ramener ce rapport collectivité au sein de cette biennale de plein de façons différentes. Donc l'une de ces façons est la façon curatoriale, c'est-à-dire qu'on a pensé avec les co-curatrices de cette biennale, donc Maëlle de la Planche, Giovanna Mazzoni et Ariel Lotterive, on a pensé à répartir cette biennale avec des espaces, puisque on a sélectionné les artistes avec cette narration artistique qui va être articulée. En trois chambres, qui va être body politics, donc le corps politique. On va avoir la chambre qui va être l'héritage, et puis on va avoir, si je me trompe pas, body politics, heritage et decolonization. Et en soi, l'idée, c'est de se réapproprier ces espaces. Et en fait, si on suit ce petit parcours, parce qu'il y a un petit parcours, hein, si on suit ce petit parcours et qu'on a bien lu l'aspect curatorial avant, on peut retrouver justement ces échos à travers chaque artiste. Elle travaille avec des médias différents, avec des médias complètement différents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle travaille la plupart ont toutes ces thématiques propres et arrive à se réapproprier ces chambres à travers ces thématiques dans leur art. Et ce qui est assez génial, puisqu'elles ne se connaissaient pas avant. Et donc aujourd'hui, je peux vous assurer, même plus qu'un peu, que toutes ces artistes aujourd'hui se parlent. Ils sont devenus plus proches que jamais et ont créé une sororité, en fait. Elles ont vraiment... cette biennale a permis, des fois même malgré nous, concrètement, malgré nous, puisque ici, c'est une édition prototype, donc beaucoup de décès, de co-création et qu'on essaye de tester de nouveaux systèmes. Mais elles ont créé justement une sororité autour d'elles pour pouvoir avancer ensemble. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des collaborations qui vont se faire entre elles. Je sais qu'elles se parlent fréquemment, qu'elles sont devenues même plus proches que jamais. Même celles qui étaient en Flandre ne se connaissaient pas forcément. Celles de Bruxelles et de Flandre ne se connaissaient pas non plus. Ce qui est génial, parce que ça a créé un esprit collectif autour de cette biennale, bien au-delà de nos attentes, sincèrement. Bien au-delà de ce que nous, on attendait, qui était plus... cet esprit collectif à travers le public qui viendrait ou à travers justement les gens qui se rencontreraient dans l'espace. Et en fait, on s'est rendu compte que ça s'est même créé au sein des artistes, donc c'est en soi, ça, c'est une grande réussite pour moi, sincèrement. Après, je pense que c'est que le début, on a encore plein de choses à mettre, à réajuster, à mettre en place.
Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces artistes que vous avez choisis? Parce que comme... comme on le dit, on connaît peu les artistes femmes, et donc à quoi on peut s'attendre, quelles sont les techniques, les domaines, enfin est-ce que...
Alors on a choisi des artistes voilà, qui ont vraiment toutes des parcours complètement différents. Alors c'est des artistes, on est sur de la transgénérationnelle, donc on n'est vraiment pas du tout sur, quand on est on ne fait pas d'âgisme au sein de cette biennale. Donc on a des artistes qui peuvent avoir dans la cinquantaine, tout comme des artistes qui viennent juste de sortir d'école d'art, ce qui c'est incroyable, et qui pour moi, ça se vaut. Ça se vaut, et on a eu des très bons retours d'ailleurs d'experts de l'art d'ailleurs à l'ouverture qui nous disaient oui effectivement ça se tient, parce que c'est pas évident de mettre des artistes professionnels avec des artistes amatrices et des artistes émergentes, c'est pas du tout évident parce que ce sont pas les mêmes milieux de carrière, c'est pas le même vécu même artistique, et là on a réussi je pense à avoir une bonne cohésion au sein de l'exposition avec cette collectivité de femmes. Alors, très concrètement, on a des artistes qui font de l'audiovisuel. On a par exemple Juanita Ozanga, qui d'ailleurs qui a gagné des prix pour le film que vous viendrez voir au troisième étage de cette biennale, qui vraiment vous inspire. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous laisse découvrir. C'est vraiment de l'audiovisuel, un très très beau film. On a également des artistes. On est la première d'ailleurs artiste. Je suis très touchée par ça. La première artiste transgenre à se produire dans une biennale en Belgique, parce que en Belgique en fait on n'a jamais vu dans une biennale une artiste transgenre se produire. Et pour moi c'est une vraie victoire en soi pour moi et pour elle et pour je pense une bonne partie de la communauté. Je pense que on a Nina Rose qui elle est performatrice, qui crée sa propre musique, qui fait du théâtre et qui fait du théâtre, de la danse. Donc c'est extraordinaire, donc c'est très riche comme performance. On a Néo Zagoffin qui fait des performances et installations artistiques concernant justement la place du corps. Je vais revenir sur cette idée de corps politique finalement. C'est comment revendiquer l'acceptation de soi avec son propre corps et malgré les clichés sociétaux auxquels on est habitué à s'associer malheureusement. Et qui va travailler vraiment sur des installations artistiques très fortes et un médium donc l'audiovisuel, mais aussi au niveau de sa performance, c'est vraiment c'est très méditatif. Elle a envie de vraiment le public à s'inscrire à sa performance et à revenir. Et elle revient tous les X pour vouloir faire sa performance avec ce public qui s'est préinscrit. On a des artistes peintresses, évidemment beaucoup de peintresses quand même, qui vont travailler sur de l'art figuratif, des fois de l'art abstrait également. On a des designs textiles, Charlotte Subi, qui est une artiste design textile extraordinaire, qui travaille sur des monochromes de couleurs. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, en fait, je vous laisse découvrir. Sinon, je vais trop en dire, parce que moi, je suis fan de toutes les artistes, donc je peux les vendre tous pendant des heures. Mais en soi, on est vraiment sur des médiums complètement différents. C'est-à-dire que ça va de l'audiovisuel à la peinture. Ça va de la performance, c'est très important pour nous, la performance. Donc, on a 10 artistes visuels et 15 artistes visuels et 10 artistes performance qui font de la performance. Et toutes ces artistes utilisent vraiment à chaque fois des médiums différents et un aspect de leur art, leur technique artistique est vraiment très particulière, enfin selon nous en tout cas assez particulière, et retravaillent justement cette technique à chaque fois. On a aussi des artistes qui font... on a Natalia de Mello qui a déjà fait plusieurs expos et qui est professeure d'art entre autres et qui fait justement des totems musicaux que je vous invite à venir découvrir, et qu'elle a fait des totems musicaux en faisant des interviews du comité citoyen justement au sein de cette biennale et du comité d'experts aussi. Et donc c'est très intéressant puisque ces totems musicaux qui viennent devenir presque des objets sonores, sont devenus des objets sonores en fait, racontent au-delà de la musicalité une narration artistique artistique derrière. Donc on a vraiment un peu beaucoup de médiums complètement différents. On a aussi Elisabeth Voronoff pour finir sur elle, parce qu'on en a quand même pas mal, si je continue à les citer, on ne va pas s'arrêter. Mais Elisabeth Voronoff, je me permets d'en parler, puisqu'elle fait un événement aussi à l'Espace Mag, qui va être génial. Donc venez le découvrir le 28 mars. On part de la Biennale pour aller à l'Espace Mag pour regarder cette pièce de théâtre extraordinaire qui travaille sur l'inceste. Donc c'est une pièce de théâtre, mais également dans la Biennale elle fait une installation qui invite justement les gens à venir raconter justement leur vécu d'injustice sociale ou d'injustice personnelle, tout simplement aussi, à travers justement des grands drapés et une grande sculpture qui en impose, une grande sculpture qui représente le corps d'une femme, justement, et cette transparence que l'on peut avoir des fois dans cette société. Donc je pense que c'est intéressant de venir découvrir toutes ces artistes et n'hésitez pas d'ailleurs, vraiment je profite d'être là pour venir ce 28 à l'Espace Mag, parce que ça va être on a vu une preview à l'ouverture qui était extraordinaire. Et elle a failli me faire pleurer alors que je savais qu'elle allait faire ce qu'elle a présenté. Donc c'est dire à quel point c'est beau. C'est assez beau.
Et pratiquement, comment ça se passe? On peut venir quand on veut, comme on veut? Est-ce qu'il faut réserver? Est-ce qu'il faut s'inscrire?
Et bien alors,
qu'il faut payer quelque chose à certains moments?
Alors, on espère des donations, évidemment. Donc, n'hésitez pas à nous donner 2 euros ou plus, vraiment. Bien sûr, puisque c'est un événement clairement féministe, certes, mais aussi un événement qui est fait avec pas de budget. Ce sont que des bénévoles qui sont là temps plein quand même pendant 2 semaines. C'est épuisant et c'est de 14 à 22 heures tous les jours. Donc on est là tous les jours pour essayer d'accompagner le public ou alors être présent tout simplement pour présenter les artistes s'il y a besoin. Quand les artistes sont là, on les présente au public également. Et donc ce qui est intéressant, c'est que tous les jours de 14h à 22h, on est ouvert à l'Espace Vandenborg. Donc c'est 50 rue de l'Écuyer, c'est pas loin de la place de la Monnaie. Et le seul jour de congé que l'on a pris, puisque ce sont, comme je disais, que des bénévoles, que tout le monde a besoin de se reposer, tout le monde travaille gratuitement, c'est compliqué. Donc le lundi 25, c'est le seul jour de closing, là où on n'est pas présent, mais on est reparti de plus belle à partir du mardi. Donc le mardi 26, on est réouvert, évidemment. Et ce jusqu'à la fin, et le 31 mars, en fait, c'est le closing de la Biennale. Alors clairement, c'est un lieu gratuit, ouvert à tous. Alors on invite les gens à faire une donation de 25 euros, éventuellement, s'ils peuvent se le permettre, sinon c'est pas grave. De toute façon, en rentrant dans la Biennale, en fait, c'est juste une inscription à faire, puisque ça nous permet de recenser aussi le nombre de personnes qui est venu, et de savoir si cet événement a pu atterrir à un certain public, et si on a réussi à éventuellement changer les choses ou intéresser les gens.
Eh bien, en tout cas, j'espère que vous avez déjà intéressé les auditrices. En tout cas, moi, je compte bien venir voir ce que vous proposez. C'est enthousiasmant, en tout cas, ce programme, et aussi de donner des explications aussi, de pouvoir faire se rencontrer aussi des gens et des groupes qui ne se rencontrent pas. Merci beaucoup en tout cas, Jemima Kulumba, d'être venue. Je ne sais pas si avant de clôturer, vous voulez rajouter un ou l'autre élément.
Je pense que si je peux me rajouter un élément... D'abord, c'est merci de m'avoir invité. Je trouve ça génial. Vraiment. C'est trop top pour les artistes derrière. Je suis juste ravie. J'aurais même aimé en avoir avec moi. Mais c'est pas évident puisqu'elles viennent de partout dans la Belgique. Il faut s'ajuster un maximum et c'est pas évident du tout. Je pense que si je peux me permettre de rajouter un mot de finale, ce serait... venez nous aider à changer le monde, parce que c'est clairement ce qu'on fait, on est en train d'essayer de changer l'histoire et de changer le monde. Alors c'est un projet clairement utopique, mais c'est une utopie assumée qui a vocation à potentiellement vouloir changer les choses dans la durée. Et le fait d'avoir un public, c'est ce qui fait que les choses durent et perdurent dans le temps également. C'est ce qui fait que demain, ces artistes pourront aussi être fiers d'avoir été présentés dans cette biennale. C'est de pouvoir avoir des retours de ce public. Donc, n'hésitez pas à venir les soutenir.
Eh bien, on viendra. N'hésitez pas déjà à préparer votre visite en allant sur le site. C'est biennaleofwomeninart.com. Et donc, j'imagine que vous êtes peut-être sur les réseaux sociaux.
Alors, on est sur Instagram, Facebook, LinkedIn, on est partout, sauf TikTok. Ah, si, on est en TikTok, mais qu'on ne gère pas tellement bien. Mais on est sur LinkedIn, sur Biennale of Women in Art aussi. On a une page, on a un Instagram qui est Woman. Je ne sais plus comment on dit, la barre en bas.
Ah, underscore.
Underscore. In art. On est sur Facebook aussi. Et on a créé une communauté sur Facebook qui s'appelle Women in Art Community, qui existe maintenant depuis 3 ans. Et qui rassemble plein d'experts et plein d'artistes de par le monde qui, justement, ramènent justement toutes les expositions. Et c'est une façon d'archiver. En fait, pour nous d'ailleurs, les initiatives qui se créent concernant les artistes femmes. Donc, suivez-nous.
Eh bien, longue vie, en tout cas, on espère avoir de nombreuses éditions de cette biennale dans le futur. Et on va se quitter avec une de vos propositions musicales.
Oui. Alors, c'est très personnel, hein.
Et donc, si je ne me suis pas trompée, c'est Witch Hunt de Coco Rosy.
Oui.
C'est ça. Eh bien, on écoute ça et on se retrouve après pour clôturer cette édition, cette mercredinale des promesses de l'aube. Merci encore, Jimmy Matt, d'être venu en ce petit matin, ensoleillé quand même, mais petit matin. Witch Hunt, Coco Rosy, alors.
We burn books, we hide Twitch, we censor the science, we tell lies, we make bribes, we murder the good guys, we sell guns, we sell drugs, we poison our young ones, we skyscrape, we earthquake, we trade blood for diamonds, we kill girls, we cunt stitch, we chop tits for profit, we cut trees, we kill bees, we cause pain and violence, we make bombs, we make war, we sell our surveillance, we brainwash, we wash minds, we turn truth to silence. We turn truth to silence, to silence, to silence. We turn truth to silence. We turn truth to silence, to silence, to silence. We turn truth to silence.
I'd rather be rainwashed than brainwashed. Let's stitch, we chop tits for profit, we cut trees, we kill bees, we cause pain and violence, we make bombs, we make war, we send our surveillance, we brainwash, we wash minds, we turn truth to silence, we burn books, we hunt witch, we censor the science, we tell lies, we make bribes, we murder the good guys, we sell guns, we sell drugs, we poison our young ones, we skyscrape, we earthquake.
for diamonds.